20 minutes pour 20 ans. Bienvenue à Choka France vous présente sa newsletter de la communauté. Bonjour Valérie, je te laisse te présenter.
Alors, je m'appelle Valérie Adair-Plasia. Me présenter, je dirais que c'est complexe et à la fois très simple. Complexe parce que, compte tenu de mon âge, il s'est passé plein de choses. Et très simple parce que j'ai l'impression qu'il y a une unité dans tout ce que j'ai fait ou tout ce sur quoi j'ai investi. Donc, avec un parcours d'entrepreneur pendant plus de 25 ans en co-créant un cabinet de conseil qui était de fait créé dans un objectif d'accompagner des clients, mais pour leur transmettre quelque part, pour s'assurer avec eux d'une prise en compte de l'impact qu'ils ont au sens humain du terme déjà, premièrement, puis au-delà. Et puis ensuite, avec un progressivement au sein de la structure, au sein du cabinet Columbus, et même à titre privé, un investissement, toujours pareil, via l'entrepreneuriat, mais là, auprès de l'intérêt général. Donc, avec la co-création d'un cabinet de conseil non-profit dédié au monde de l'économie sociale et solidaire, co-conseil, puis avec un investissement bénévole au sein d'Ashoka pour accompagner des entrepreneurs sociaux, etc., etc., puisqu'après, il y a plein d'autres initiatives dans lesquelles je suis, toujours dans un objectif de se dire via l'entrepreneuriat, via les entrepreneurs qui ont les manettes quelque part, et qui ont une responsabilité forte de leur, qui ont une notion de leur responsabilité dans la société, de les accompagner pour leur permettre de contribuer à l'intérêt général.
Valérie, quel lien faites-vous entre l'entrepreneuriat social, l'intérêt général et les jeunesses, qui sont un sujet important pour Ashoka?
La jeunesse, elle est source d'inspiration. Pour moi, elle doit être source d'inspiration pour les générations au-dessus. Et de fait, il est indispensable pour la société que les différentes générations échangent. Et donc, pour moi, la jeunesse, c'est l'entrepreneuriat social et l'intérêt général. Ça signifie quoi? Moi, ça éveille deux idées. Une première qui est que, étant par mon métier au contact de jeunes depuis très longtemps, l'évolution en fait de la prise en considération de l'intérêt général, qu'il soit social ou environnemental, je l'ai vu naître chez les jeunes avant ma génération. Et donc moi, je me suis telle une éponge, je me suis nourrie de ça. Et merci aux jeunes. Et de l'autre côté, je trouve que dans des intentions comme celle d'Ashoka ou d'autres organisations, et par l'appui de gens comme moi, on arrive à ce que j'appelle mettre un marchepied à la jeunesse, c'est-à-dire de lui donner l'envie que des parcours soient désirables au-delà du monde économique classique, et en particulier le monde de l'intérêt général. Et la mise en valeur de l'entrepreneuriat social, comme Ashoka peut le faire, pour moi, c'est un énorme vecteur d'envie pour les jeunes.
Quelles sont les conditions pour que le dialogue puisse se faire?
Alors, pour que le dialogue se fasse, déjà, il faut écouter, sans a priori. Donc, ça veut dire qu'il faut un dialogue entre... Alors, les jeunes, c'est un grand mot, mais en tout cas, permettre qu'il y ait des rencontres entre des univers au moins d'âge très différents, ce qui arrive rarement puisque souvent on est plutôt dans nos tranches d'âge ou alors avec des rapports parents-enfants, etc. Donc des rapports très spécifiques. Donc déjà, il faut se mettre dans une situation d'écoute de tous les côtés, c'est-à-dire le jeune qui se dit « il y a quelque chose à prendre des générations plus anciennes » et les générations plus anciennes arriver en se disant « ils ont quelque chose à m'apprendre », ce qui est quand même très compliqué pour beaucoup, hein, c'est de se dire que des jeunes peuvent vous apprendre quelque chose. Et ils peuvent vous apprendre aussi bien sur, évidemment, du savoir, mais aussi du savoir-être, aussi du comportement, aussi leur expérience de vie, parce qu'il y a des gens très jeunes qui ont des expériences de vie et un regard sur la vie qui est quand même très, 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 très intéressant et parfois beaucoup plus étudié que ce que l'on peut même avoir, nous, à nos âges. Donc voilà, donc y a cette notion de dire, bon, j'aime bien cette expression de pouvoir être surpris ou surprise, mais c'est être dans une situation d'ouverture, sinon le dialogue ne se passe pas. C'est-à-dire que si on donne des leçons les uns aux autres, en disant « moi qui suis jeune, vous ne pouvez pas comprendre parce que… » ou « moi qui suis vieux, bah, en fait, vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'avez pas l'expérience et vous n'avez pas vécu… » C'est impossible en fait, c'est totalement… Et puis c'est aussi, le dialogue, c'est aussi avoir confiance dans la capacité de l'autre à faire différemment. Je vais vous donner un exemple qui m'a profondément marqué. Je suis très investie dans la Convention des entreprises pour le climat et je discutais avec un de mes fils qui est tout jeune au retour d'une des conférences qui m'avait mis le moral un peu à zéro. Et je lui disais, peu importe sur quoi, mais je faisais le bilan et je m'apercevais qu'en fait, il était tout à fait au courant. Et à un moment, il me dit, mais maman, tu ne peux pas te mettre à notre place, donc à ma place, à mon âge. Donc ne porte pas ça, toi. Nous, on est arrivés avec ça en tête. Donc on le voit différemment. Et on voit, voilà. Donc il y a aussi se dire qu'on n'a pas forcément les solutions soi. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire quelque chose hein, pour aider. C'est pas du tout mon propos, au contraire. Mais il faut aussi penser que l'autre, il a aussi des ressources de par son âge, de par son… Peu importe, hein, que ce soit… Là, on parle de la jeunesse, mais ça peut être beaucoup plus large. C'est qu'on a… Il faut laisser l'autre aussi être le libre de sa propre… C'est pas parce qu'on est vieux qu'on sait tout, quoi. Et que on doit aussi souffrir pour les jeunes, par exemple, sur ce sujet-là, si je parle simplement de la partie environnementale. Voilà, c'est ce que j'appelle le dialogue, en tout cas. C'est pas simplement parler et puis attendre qu'on soit écouté.
Pour aller plus loin sur le dialogue dans nos sujets que sont l'intérêt général et l'entrepreneuriat social, est-ce que vous pourriez nous donner des clés, des liens avec la dimension systémique du développement de ces sujets?
En fait, j'ai deux angles qui se rejoignent, mais je pense qu'il y a deux angles de vue différents. Il y a d'abord mon expérience, ce que j'ai vécu. Et puis après, il y a une couche plus conceptuelle, plus théorique que j'ai acquise, mais a posteriori en regardant ce que j'avais vécu. La première, c'est mon expérience entrepreneuriale, d'association, où en fait, construire dans l'entrepreneuriat en tout cas, ou dans un écosystème de parties prenantes en tout cas, un collectif, ça veut dire partager un certain nombre de valeurs, se dire ce qu'on en attend, ce que l'autre en attend, etc. Donc quelque chose de très riche. Mais je me suis aperçue avec l'expérience qu'en fait, que ce qui en ressortait, ce n'était pas ce qu'on s'était dit qu'il allait ressortir. Ça c'est arrivé, oui. Mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Il est arrivé autre chose qu'on n'avait pas attendu. Donc, en l'occurrence, pour mes associés, quelque chose qui est bien au-delà de simplement avoir des partenaires de professionnels, mais quelque chose de beaucoup plus profond. Donc, ça c'est, on va dire, l'expérience concrète. J'aime bien faire un parallèle avec l'économie régénérative et systémique, puisqu'il y a quand même un lien sur les principes du vivant. Il y a deux principes qui sont importants. D'abord, on est des écosystèmes. On ne vit que parce qu'on est écosystème. Et qui dit écosystème dit interaction avec d'autres, d'autres étant d'autres vivants. Et que ces interactions, on ne les maîtrise pas toutes. Et on ne peut pas les maîtriser. Mais il faut se mettre en tête que seul, de toute manière, on n'arrivera pas très loin et que c'est qu'avec cet écosystème qu'on peut arriver quelque part. Par contre, on ne sait pas où on va arriver. Et le deuxième principe, c'est le principe de l'équilibre dynamique, c'est-à-dire que quand vous êtes, par exemple, vous montez un partenariat, vous êtes, peu importe le type de partie prenante avec lequel vous êtes, évidemment qu'il faut, comme avec mes associés, il faut se dire quelles sont nos valeurs. Est-ce qu'on a des intentions communes? Est-ce qu'on a des valeurs communes? Peu importe le terme. Est-ce que mes attentes vis-à-vis de toi, est-ce que tes attentes vis-à-vis de moi, elles sont compatibles? Est-ce qu'on va s'en sortir avec ça? Donc ça, c'est une première base. Et il la faut. Mais par contre, ce qui est essentiel, c'est ce qui va découler de tout ça. C'est-à-dire ce qui va émerger, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est se laisser surprendre par ce qui va émerger. Et c'est ça qui fait que un partenariat, etc., va être bien au-delà de ce qui était prévu. Sinon, on va s'arrêter à un niveau, on va refaire la même chose qu'on a fait 250 fois. Et c'est bien ce miracle, quelque part, alors on peut dire 1 plus 1 fait 3, mais peu importe, c'est ce miracle qui fait la vie, en fait, qui fait que qu'on évolue, que les êtres vivants évoluent aussi, qui s'adaptent, qui se protègent, qui s'entraident, qui deviennent autre chose, etc. etc. Et c'est pareil dans nos relations humaines au sens large, dans les partenariats si on parle d'organisation, c'est bien se laisser surprendre par quelque chose qui est au-delà, avec des bases saines évidemment, sinon c'est impossible.
Et se laisser surprendre, c'est aussi se mettre en condition face à la complexité d'un système.
Alors évidemment, l'être humain ayant une capacité à complexifier tout, à penser qu'il est capable de gérer la complexité tout seul, plus le fait que de toute manière le vivant est complexe, je dirais même que c'est la seule solution en fait de se mettre dans cette situation-là, parce que on est à des, alors évidemment on est à une époque, mais pas que, où la complexité est telle que ça n'y a pas un problème, une solution. C'est collectivement, avec de l'itération, avec en se laissant surprendre, qui va permettre l'innovation au sens social du terme, hein, pas forcément l'innovation que technologique, qu'on peut avancer en fait. Et de toute manière, on ne pourra avancer que comme ça. Donc l'aspect de vision systémique, elle est indispensable. On le voit évidemment sur la partie environnementale, puisqu'on est, quoi qu'on fasse, on a un impact. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait, hein, et comment on gère ça, et comment on le regarde avec des angles de vue différents, donc quelque chose de très systémique. Donc cette complexité, comment dirais-je, le fait qu'on soit tous entremêlés en fait. On est un tout, on n'est pas chacun de notre côté. Elle ne peut se gérer que de manière systémique. Et l'entrepreneuriat vu par Ashoka a cette grande force d'identifier des organisations et des entrepreneurs qui sont capables de déclencher ces changements-là et de les porter au-delà d'eux quelque part.
Les brèves qui font vibrer la communauté.
Bonjour, je suis Sophia Gilbert, en charge de l'animation de la communauté chez Ashoka France. En ce beau mois de février, le médico-oncologue Jean-Louis Mousset, fellow Ashoka et fondateur du Centre Ressources, a enregistré un podcast, le mardi 13, sur l'oncologie intégrative en direct du Centre Ressources d'Aix-en-Provence avec le docteur Vincent Renaud. Le thème traité? L'oncologie intégrative, une approche qui associe traitements médicaux conventionnels et thérapies complémentaires. Ils y partagent leur expertise et perspectives sur l'intégration de méthodes holistiques dans le traitement du cancer. Vous pouvez retrouver le podcast sur Nutri Radio disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Et pour rester dans le thème de la santé, notre fellow Abdelali El Badawi, fondateur de Banlieue Santé, l'association pour l'équité en santé, a fait partie des mentors présents lors de la Ligue Startup Banlieue 2024 à Epitech, l'école de l'excellence économique. L'initiative Startup Banlieue vise à lever les différents freins rencontrés par les entrepreneurs issus de banlieue grâce à son programme d'accompagnement et son réseau de mentors et de professionnels. Elsa Dacosta, notre directrice générale, a été récemment nommée au conseil d'administration de la Fondation Groupe EDF. Cette nomination s'inscrit dans la volonté de la Fondation de renforcer ses orientations stratégiques et d'être guidée dans cette démarche. La Fondation s'engage activement en faveur de l'égalité des chances tout en soutenant et mettant en lumière le potentiel des projets en France et à l'échelle internationale, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la formation et de l'éco-citoyenneté. Le 26 janvier dernier, dans le cadre des États généraux de l'information, un hackathon sur l'éducation aux médias s'est tenu à Paris. Des lycéens, accompagnés de professionnels de l'information, ont proposé des idées novatrices, comme par exemple la mise en place d'une campagne de communication nationale pilotée par les jeunes, ou encore la création d'ambassadeurs de l'éducation aux médias dans les entreprises, les villes et les villages. Cette rencontre intergénérationnelle a abouti à des propositions prometteuses présentées à la députée Isabelle Roche, présidente de la Commission des affaires culturelles à l'Assemblée nationale. Un rendez-vous est prévu à l'Assemblée en mars pour les présenter cette fois-ci à l'ensemble des membres de la Commission. Nous vous tiendrons informés. Et si on définissait enfin l'intérêt général collectivement? C'était le programme de la rencontre entre Maxime Baduel, délégué ministériel à l'économie sociale et solidaire, et plus d'une quinzaine de fellows d'Ashoka le 15 février. Nous avons réfléchi ensemble à la manière dont l'ESS peut être un acteur de choix au service de l'intérêt général, et comment déployer au mieux cette notion grâce aux précieuses expériences des fellows Ashoka. Cela passe notamment par la réussite de partenariats publics-privés, la revalorisation de l'innovation sociale pour permettre aux acteurs de bénéficier des mêmes financements que ceux de l'innovation technologique à la faveur de leur qualité innovante. Et enfin, un recours systématique à la mesure d'impact pour agir au plus près de l'intérêt général. Des réflexions rendues possibles grâce à un travail collectif ambitieux que nous poursuivrons pour aboutir à des propositions concrètes. Et pour finir, on vous invite le 14 mars à 9h pour un webinaire de l'initiative Racine sur le thème « Pensée systémique et implication pour la philanthropie » animé par Anne Monnier, docteur en sciences sociales et chercheuse à la chaire philanthropie de l'ESSEC. Nous plongerons dans la pensée systémique en nous appuyant sur la recherche, explorant ses différents types de systèmes et son potentiel pour des changements significatifs. Charlotte Delobel, country manager de Porticus et membre de Racine, animera une session de questions-réponses à la fin du webinaire.
Esprit systémique, élargir ses horizons.
Comment les jeunesses font-elles les preuves de leur pouvoir d'agir en faveur de l'intérêt général ? Récemment, ils et elles ont montré l'exemple en médiatisant les questionnements relatifs aux relations et rôles du système éducatif. Le mois dernier, nous avions évoqué la dimension fondamentale de l'esprit critique et du collectif pour renforcer celui-ci, dans l'objectif de changer un système. Ces aspects ont été illustrés récemment par l'agitation au sein d'une école d'ingénieurs réputée, où un collectif d'étudiants a protesté contre ce qu'ils considèrent comme une intrusion excessive des entreprises dans le fonctionnement de l'école, et en particulier dans la dimension pédagogique du cursus. Des interrogations plus larges sont ainsi soulevées sur le rôle des entreprises dans l'éducation des jeunes et sur l'importance de maintenir une indépendance académique tout en répondant aux besoins du marché et du modèle économique de l'école. Ce que nous relevons particulièrement, c'est la création d'espaces de dialogue entre les étudiants et l'établissement, afin de communiquer les attentes et besoins de chacun. C'est ce qui permettra de parvenir à les concilier tout en faisant bouger positivement le système. L'éducation est en effet un levier majeur pour donner des clés d'action aux jeunes, en particulier pour agir en faveur de la résolution des enjeux sociaux et environnementaux. Ashoka France prône d'ailleurs le droit à l'éducation au changement, en s'appuyant sur les résultats de sa mesure d'impact sur les initiatives d'éducation au changement. À quoi former les jeunes, si ce n'est à s'adapter et à agir de façon proactive dans un monde complexe, en polycrise et en évolution rapide. Cette situation met également en lumière l'importance des récits que nous diffusons aux jeunes, qui contribuent significativement soit à renforcer, soit à bousculer les normes de notre société. Ce qui était tout souligné était le déséquilibre de représentation des entreprises partenaires dans les contenus pédagogiques. Parlons alors plutôt d'innovation sociale, d'acteurs de changement positif et des solutions aux enjeux qui nous traversent aujourd'hui et demain. En exposant les jeunes à une variété de perspectives et en encourageant la pensée critique, nous pouvons contribuer à favoriser l'émergence d'une génération d'individus responsables et engagés. Alors, continuons à dialoguer et à se questionner sur les racines des problèmes pour changer les systèmes et ainsi mettre l'intérêt général au premier plan.
Merci pour votre écoute. On vous donne rendez-vous le mois prochain. Entre-temps, n'hésitez pas à nous faire des retours sur cette newsletter podcast. C'était Macha Bino, responsable de la communauté et toute l'équipe Ashoka France.